Et rebonjour, nous revoilà dans ce magazine de la rédaction où nous sommes avec Isabelle Servant, fondatrice de l'association École du Monde, acteur en éducation. Rebonjour Isabelle.
Rebonjour Claire.
Nous sommes également avec Bénédicte Leguérinel, membre de l'association. Rebonjour Bénédicte.
Bonjour Claire.
Et Christina Pachon, tout droit venue de Colombie, professeure d'anglais avec un très bel accent. Bonjour Christina.
Bonjour Claire.
Voilà, nous revenons dans ce magazine de la rédaction où nous parlions en première partie donc du système scolaire en Amérique du Sud. Nous avions évoqué pas mal les points forts de ce système. Bénédicte, vous vouliez revenir sur le rôle des parents qui vous semblait assez important.
Oui, en effet, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Christina nous parlait de la place des parents dans l'école. C'est un point qui suscite beaucoup d'intérêt pour nous Français parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe ici. Est-ce qu'on pourrait, pour rester un petit peu sur les bons points et peut-être aller vers les côtés plus faibles du système scolaire, voir quelle est la place des parents, comment ils s'impliquent dans l'école. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de respect de la part des parents vis-à-vis des enseignants. Comment ça se passe ?
Oui, c'est vrai, les parents, ils ont une place assez remarquable, ils sont assez actifs, en fait, dans l'éducation, que ça soit public ou privé. C'est vrai, c'est plus présent, les parents dans l'école publique, parce que déjà, il y a les côtés des frais scolaires, ils s'investissent, donc ils ont l'intérêt de voir que ça se passe bien. Mais dans l'école publique, ça ne se limite pas qu'à aller recevoir les bulletins scolaires, que ça se fait 4 fois par an. Mais c'est pas pareil qu'en France, c'est 4 fois par an, il y a 4 périodes scolaires. Donc les parents y viennent 4 fois déjà obligatoirement recevoir les notes de leurs enfants. Mais aussi ils viennent pour savoir comment ça se passe, si tout va bien, pas uniquement appelé par les professeurs. Mm-hmm. Ensuite, une chose que ça se voit beaucoup, c'est l'école des parents, ou l'association des parents d'élèves. Mm-hmm. C'est une organisation au sein des écoles. Et eux, ils sont là, ils s'associent, ils s'organisent pour veiller sur les droits et les bien-être des enfants à l'école.
On avait parlé également justement du point de vue de l'investissement des parents, qu'il allait quand même très loin dans la mesure où ils étaient susceptibles d'organiser des manifestations pour récolter des fonds. Oui. Qui permettaient éventuellement de financer des cours. Oui. De la part d'un enseignant qui ne pouvait pas être rémunéré par l'État.
Oui, oui, exactement. Ça peut arriver, ça se voit assez souvent. Justement, le gouvernement colombien, il sait qu'il ne peut pas tout payer, il ne peut pas tout assurer. Et les écoles, même dans la liberté, s'ils trouvent que le budget s'est pas assez, les parents ils peuvent se mobiliser, ils peuvent s'organiser, ils peuvent faire des arrivées déjà. Ils s'organisent des bazars ou des kermesses ou les mamans ils font des gâteaux, les parents ils organisent une petite, je ne sais pas, une petite fête. Donc les
ça
gens ils payent.
Ça vous est déjà arrivé vous, Christina?
Oui, ouais. Oui, oui, oui.
C'est très commun.
Un camarade de cours de la fac quand j'étais à l'université pour devenir professeur. Pendant les stages, il a vécu ça. Après les stages, il a vécu ça. Et il a été payé par l'association des parents d'élèves. C'est eux qui se sont organisés, qui ont récolté de l'argent pour payer les cours d'anglais pour l'école primaire. Donc les parents, ils avaient vraiment l'intérêt que les enfants, ils reçoivent des cours d'anglais, que ce soit 2 ou 3 heures par semaine, même si ce n'est pas beaucoup, mais qu'ils reçoivent quelque chose. Et une information en anglais, que c'est important. Ils reconnaissent l'importance de l'anglais comme deuxième langue. Donc... Il arrive à faire jusqu'à ça.
Oui, alors on peut considérer que c'est une force du système, dans la mesure où les parents sont vraiment très impliqués et très intégrés à l'école. D'un autre côté, ça évoque plutôt le côté faible du système, qui a des difficultés pour financer les enseignements.
De manière générale, en fait, ce qu'on découvre dans ces systèmes scolaires, c'est qu'il y a quand même beaucoup de corruption. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce sont des pays riches, hein, la Colombie, le Venezuela, il y a quand même beaucoup d'argent, les sols sont très riches, ils ont beaucoup de ressources. Venezuela, même la Colombie, gros producteur de pétrole. Mais l'argent, et même si le budget alloué à l'éducation est quand même assez important, on a 20% au Brésil, par exemple, quasiment, mais ça n'arrive pas jusqu'aux écoles publiques. Donc chacun se sert au passage. Et après, on a des écoles publiques qui qui n'ont pas les moyens nécessaires. Donc on fonctionne beaucoup par système D. Ce qui est bien, c'est que la population est complètement mobilisée, les parents sont mobilisés. Voilà, ils font des gâteaux, ils font des kermesses, ils font des événements pour récupérer de l'argent.
Malheureusement, ça donne raison à l'État qui laisse se faire, ça les arrange bien.
Ils se substituent effectivement au système qui est défaillant. Mmh. Mais en tout cas, ils savent, encore une fois, ça montre tout l'intérêt que l'on porte à l'éducation, à l'école et à l'école publique, malgré le manque de qualité parfois.
Alors vous, Isabelle, vous parlez de corruption et c'est important d'en parler puisque ce sont des pays qui sont souvent victimes de violences ou bien de trafics divers et variés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, Christina, par rapport à ce que vous avez pu voir ?
Oui, la corruption, il existe dans différentes mesures, dans tous les pays de l'Amérique latine. Il y a la corruption politique, c'est l'un des plus graves.
Principal, comme partout en fait.
Voilà, il y a la corruption au niveau budgétaire, il y a la corruption dans les rues, dans les différentes structures administratives, ça existe, c'est vrai. Mais on doit vivre avec, on doit faire avec et on le sait. Et voilà, je crois que les gens, ils apprennent que ça existe. Parfois, c'est une réalité, on y profite. On voit même des organisations sérieuses comme la police, les militaires, ça existe. Mm-hmm. Mais voilà, c'est quelque chose qui est caractéristique de nos pays, de notre culture et voilà. Après, ça peut arriver même à l'éducation, mais bon, à l'éducation, après, c'est... La corruption, je pense pas qu'au niveau au sein des écoles, c'est pas trop facile à faire la corruption.
C'est vraiment des questions qu'on avait demandées, en fait, parce que c'est vrai que pour nous, on a des a priori sur la Colombie, le Venezuela, comme des pays qui sont vraiment, ou le Brésil, qui sont des pays avec beaucoup d'insécurité. Mm-hmm. Donc on avait demandé à nos invités, dans les recherches qu'on avait faites, si le système scolaire, les écoles étaient inquiétantes quand on y allait. Est-ce qu'on risquait de se faire voler ou on risquait même pour sa vie et de manière générale, ils nous ont rassurés en disant qu'effectivement il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de corruption de manière générale dans la vie, mais que dans les écoles, au sein même des écoles, de manière générale, c'était des lieux assez sûrs où en fait, voilà, il y a de la violence en dehors de l'école, mais au sein même de l'école, on était plutôt protégés.
Est-ce qu'il existe des zones d'éducation, comment dire, un petit peu comme chez nous, prioritaires, voilà, oui, exactement, un petit peu avec un public un petit peu plus difficile, voilà, venant de
des
enfants un peu plus turbulents, quoi, qui sont un petit peu plus...
Oui, on les appelle l'arche de Noé, comme dans la vie. C'est un peu méchant, c'est un peu péjoratif, mais bon, c'est vrai, c'est péjoratif, mais ça nous fait rigoler un peu. On est toujours dans la rigolade en Colombie. C'est parce que tous les animaux, ils vont là-bas, mais bon, c'est juste pour rigoler. Non, c'est vrai, c'est des écoles où c'est difficile parce qu'ils vont là-bas les enfants qui sont soit mauvais au niveau scolaire, soit difficiles au niveau disciplinaire. C'est du cas, mais bon, c'est dans le public plutôt. Et après, il y a les écoles militaires. Bon, ça rentre dans les privés, mais c'est pas non plus inaccessible, on peut y accéder. C'est une solution pour certains parents qui ont vraiment des enfants très turbulents et donc vous les envoyez dans les écoles militaires et là ils s'occupent bien de les redresser.
Qu'est-ce que vous entendez par école militaire? Ils sont vraiment dans une caserne?
Non, c'est des écoles gérées par des militaires. C'est un enseignement militaire. C'est beaucoup plus strict, juste. Et ils ont l'uniforme militaire, ils doivent suivre des... je ne sais pas comment ça s'appelle, des formations militaires le matin, voilà. S'il se comporte mal, bon, il y a un petit peu une espèce de punition physique, comme, un peu comme les militaires, mais bon, ce n'est pas exagéré, c'est juste qu'ils apprennent, voilà, la coupe pour les garçons, c'est militaire.
Mais qui décide d'envoyer ses enfants dans ces écoles?
Non, c'est les parents.
C'est la décision des parents.
C'est la décision des parents.
Les parents qui n'en peuvent plus, quoi.
des écoles financées par l'État également?
Non, sont privés, mais c'est pas trop cher non plus, ça reste accessible quand même.
Ceci dit, ça me fait penser qu'on avait découvert dans certains pays d'Amérique du Sud qu'il y a une initiation militaire obligatoire pour les élèves au lycée, en Colombie, au Venezuela, notamment. Ils sont obligés de passer par une initiation militaire pour pouvoir aller dans l'enseignement supérieur. C'est même obligatoire pour terminer le lycée. Il y a une initiation militaire où on apprend à
manipuler. Donc il y a quand même une forme de rigueur.
On a une manipulation. Ouais, on manipule quand même un petit peu les armes. On a les théories au niveau de l'armée, de la protection.
Les armes ne circulent pas librement en Amérique du Sud.
Non.
Pas librement, disons que tout est relatif, oui. Voilà, il y a quand même beaucoup d'armes qui circulent.
Non.
Alors, on parlait de privé et de public. Isabelle, il existe une... Enfin, je m'adresse à toutes les trois. Il y a une très très grande différence apparemment entre le privé et le public. Que ce soit au niveau de la qualité d'ailleurs.
Je crois que c'est vraiment là... On a parlé tout à l'heure de ce qui était positif. Et vraiment, c'est vraiment le rapport humain. La compétence sociale, l'affect. On apprend à vivre ensemble malgré ces inégalités sociales qui sont absolument flagrantes et énormes. Je parlais encore hier avec une Péruvienne qui me disait que 10% de la population détient 90% de la richesse. Et c'est ce qui se passe au niveau du Brésil. On a à peu près pareil. Hein. On a 10-15% qui détient le reste. Donc en fait, et inversement, donc on a 75% ou 80% de la population qui n'a que 20% des ressources. Donc c'est ce qui se passe au niveau mondial, mais là, on le parle au niveau d'un pays. Donc les inégalités sont flagrantes et c'est vraiment le point faible de ces pays, c'est la différence de qualité entre le public et le privé. On avait dans notre café Désirée, qui est enseignante dans le public. Elle est obligée de cumuler 3 emplois pour mettre sa fille dans l'école privée. Donc en fait, il y a vraiment un décalage complet. Quand on a un petit peu d'argent ou quand on a vraiment une conscience de l'école, on essaie de mettre tout son argent. Les parents travaillent très très dur pour gagner de l'argent et mettre leur enfant dans le privé, parce qu'ils savent que, au moins, encore une fois, au niveau du primaire ou du secondaire, l'enseignement supérieur public est largement supérieur. Mais en tout cas, pour accéder dans ce public, l'enseignement supérieur, il faut mettre son enfant dans des écoles privées avant.
Vous avez une petite idée, du coup, de l'école privée, sur une année par exemple, combien ça coûte de mettre son enfant dans une école privée? Ça dépend, j'imagine, des écoles.
Ça dépend, parce que même dans les privés, il y a plusieurs, il y a comme une classification. Mm-hmm. Il y a les écoles catholiques privées, mais il y a aussi les privés de haute gamme. C'est vraiment des enfants, des familles qui passent leurs vacances en Europe, aux États-Unis. C'est pas pareil que les autres écoles privées. Ça veut dire, ça dépend. Il peut avoir des petites écoles privées, mais ils restent privés parce qu'ils sont constitués comme ça, ils sont conformés comme ça. Mais il y a des autres qui sont grands, qui ont des piscines, qui ont un champ de golf, qui ont un gymnase, une salle de sport. Mais...
Et Christina, est-ce que les écoles privées sont en partie financées par l'État?
Non, ils sont réglementés par l'État.
Réglementés mais pas financés.
Non, ils sont pas financés par l'État. Non.
Au niveau de ces décalages de richesse, hein, par rapport au Venezuela, il y a 60% des habitants de Caracas qui vivent dans les barrios, dans les favelas, et c'est le pays qui a le plus de millionnaires d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment un gros paradoxe au niveau des richesses, mm-hmm. déséquilibre au niveau des richesses. Donc d'où la corruption, l'insécurité. Et ce décalage au niveau du public privé.
En règle générale, je m'adresse à toutes les trois, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce système scolaire? Il vous semble tenir la route? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de progrès à faire, ou qu'il soit en bonne voie pour donner le meilleur de lui-même?
Bon, je crois que progrès, il y aura toujours à faire. Même dans n'importe quel système éducatif, il y aura toujours des progrès, des améliorations à faire, bien sûr. Nous sommes susceptibles de faire pas mal de progrès, d'amélioration, l'État il s'investisse beaucoup plus, qu'il y ait plus de moyens, surtout de facilités, comme il y a, par exemple, en France, en Europe, la mobilisation, pouvoir faire plusieurs choses. Mais en même temps, je crois que déjà, on est pas mal, même si les résultats, ils sont pas les top. Et il y a quand même un niveau, il y a quand même... Et déjà, le fait de savoir que les élèves, les enfants, ils sont contents d'y aller à l'école, que c'est pas exactement comme une punition d'y aller à l'école, pour moi, c'est déjà un bon début.
L'école est-elle obligatoire en Amérique du Sud?
C'est obligatoire.
Jusqu'à 16 ans, comme en France?
Jusqu'à...
Ça dépend des pays en général, ouais,
oui.
De 14 à 16 ans à peu près.
Mm-hmm.
Et on commence à peu près à 5-6 ans, mm-hmm. un peu comme nous.
Oui. Ouais.
Et vous, Bénédicte, un dernier mot sur ce que vous avez pu constater dans ce système? Ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous plaît?
Alors, ce qui pourrait améliorer beaucoup de choses sans doute, mais ce que j'ai retenu malgré tout, c'est une volonté générale qu'on a constatée dans tous ces pays de progrès. En Colombie, Christina nous parlait notamment de prix accordés
aux enseignants,
ah ouais. Au prix de l'initiative.
Aux élèves, d'ailleurs.
Et oui, je pensais surtout au prix de l'initiative. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé que c'était formidable. Oui. On avait parlé de cet enseignant qui avait monté une bibliothèque mobile, la la bibliobourre avec ses deux ânes qu'il baladait dans la montagne permettre l'accès à la culture, à l'éducation de tous les enfants et même dans les endroits les plus reculés. Voilà, ça faisait partie des initiatives et qui sont reconnues à la fois en termes de communication mais aussi de financement puisque le prix l'école bénéficiait de financement, l'enseignant, voilà. Donc ça, ce sont des initiatives que je trouve très heureuses, c'est-à-dire que la part de créativité laissée aux enseignants est reconnue. Alors c'est vrai en Colombie, mais on l'a vu aussi dans d'autres pays. Ouais. Voilà, ça c'est la touche positive et encourageante.
En fait, on a trouvé tout un nombre de pratiques qu'on a absolument adorées, qu'on va d'ailleurs référencer sur le site, hein, assurément, parce qu'elles sont magnifiques et celle-ci en fait partie. On remercie les enseignants de leur initiative. Il y a vraiment une reconnaissance avec un titre. Ils gagnent de l'argent, mais leur école aussi gagne de l'argent. Ils ont même, c'est des sommes considérables. Ils peuvent comme ça créer une bibliothèque, un terrain de jeu, un terrain de sport. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très reconnu, de très médiatisé. Et l'argent, en fait, c'est souvent financé par des entreprises privées.
J'ai complètement oublié de vous demander, Christina, mais la semaine, comment se déroule-t-elle au niveau des jours? Ils vont à l'école tous les jours, le matin, l'après-midi?
Excellente question. À quelle heure commence-t-il? Il faut demander à quelle heure il commence, Christina.
À 11h.
Non. En fait, ça dépend de la ville, parce que nous, on fonctionne par rapport à... déjà, comme nous n'avons pas de saison comme en Europe, nous avons juste soleil ou pluie. Voilà, ça, c'est les saisons pour nous. Et ça dépend si on habite dans la montagne ou dans la vallée, voilà. Et normalement, la plupart des écoles commencent à 7h du matin, 6h30. Oui. En fait, ça dépend. Normalement, toutes les écoles commencent à 7h. Mais dans la ville d'où je viens, où j'ai donné des cours, et ça a commencé à 6h15 du matin. Parce que c'est une ville où il fait très chaud, il fait 35 degrés, voire 40 toute l'année. Mm-hmm. Et donc, il faut profiter de la fraîcheur le matin. Donc, si on fait des études, si on va à l'école le matin, ben, il faut commencer à 6h15. Donc, ça fait qu'on doit être à 6h. Au plus tard, dans l'école, pour démarrer à 6h15 vraiment. Et ça finit vers midi 45, 1h.
En fait, dans ces pays-là, on a des doubles horaires. Donc, on va à l'école soit le matin, soit l'après-midi. Mm-hmm. En fait, en Colombie, c'est 5 heures de cours par jour. On y va soit le matin, soit l'après-midi. Au Brésil, c'est 4 heures de cours par jour. On va soit le matin, soit l'après-midi, soit éventuellement le soir. Le soir, c'est généralement les adultes qui font de la formation.
La nuit, non,
j'avais entendu parler
pour les adultes.
Pour les adultes, mais j'avais entendu de créneaux de 19h à 22h30.
Ah oui.
Donc, voilà. Donc, mais c'est effectivement des horaires extrêmement restreints. 4 heures simplement au Brésil, matin, après-midi ou soirée, et 5 heures en Colombie, le matin ou l'après-midi. Et là, il faut commencer super tôt, hein, 6h15.
Oui. Et ça, dans le but de donner la plus grande couverture d'éducation. Qui deux journées différentes, ça fait plus d'enseignement pour plus des élèves, donc pour assurer l'éducation.
Merci à toutes les trois d'avoir été avec moi. Merci. Je rappelle, Bénédicte Le Guernel, vous êtes membre de l'association École du Monde Acteurs en Éducation, qui a été fondée par Isabelle Servant, qui veut dire quelque chose, qui lève le doigt, très poliment.
Parce que simplement, on est toujours très court en termes de temps. On a dit 10 000 choses lors de notre café, de nos recherches. Alors, je voulais simplement dire que si les gens veulent approfondir les informations, on a une présentation des systèmes scolaires d'Amérique du Sud sur notre ligne et un compte-rendu de la soirée pour vraiment approfondir. Là, on a juste donné quelques aperçus. On allait beaucoup plus en profondeur. On a notamment le détail par rapport à Cuba, par rapport au Brésil, par rapport au Venezuela ou à la Colombie. Mais par contre, on n'a pas pu l'aborder maintenant dans le détail. Donc, c'est en ligne sur notre site.
www.écoledumonde.com.
École avec un S.
École avec un S. Il y avait également avec nous Christina Pachon. Merci Christina. Merci. Tout droit venu de Colombie, prof d'anglais. Vous repartez en Colombie, vous restez avec nous?
Non, je reste avec vous.
C'est très bon choix. En tout cas, je vous annonce que le jeudi 25 avril à 20h à la Maison des Relations Internationales, il y aura un nouveau café pédagogique avec École du Monde Acteurs en Éducation. Ça portera sur l'Amérique du Nord.
Cette fois-ci, on monte au
nord. Les États-Unis et le Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ça va être passionnant.
Très riche. Merci infiniment à toutes les trois. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.
Merci Claire.
Merci.